Allez, ça, les amis, je voudrais saisir cette date du 11 juillet, samedi, pour vous parler d'un très grand saint qui est Saint Benoît. L'Église fête aujourd'hui ce très grand fondateur du monachisme occidental que fut Saint Benoît. Et je commencerai par une parole de Saint Grégoire le Grand qui écrit à propos de Saint Benoît, et je le cite: L'homme de Dieu qui brilla sur cette terre par de si nombreux miracles ne brilla pas moins par l'éloquence avec laquelle il sut exposer sa doctrine. Fin de citation. Telles sont, frères et sœurs, les paroles que ce grand pape écrivit en l'an 592. Saint Benoît est décédé à peine 50 ans auparavant et il était encore vivant dans la mémoire, bien sûr, des personnes et en particulier dans le florissant ordre religieux qu'il avait fondé. Saint Benoît de Nursie, par sa vie et par son œuvre, a exercé une influence fondamentale. Voilà ce qui m'intéresse, entre autres, hein, sur le développement de la civilisation et de la culture européenne. La source la plus importante à propos de la vie de ce saint est le deuxième livre des dialogues de Saint Grégoire le Grand, qui n'en a pas fait pour autant une biographie au sens classique. Mais selon les idées de son temps, il voulut illustrer à travers l'exemple d'un homme concret, à savoir Saint Benoît, l'ascension au sommet de la contemplation qui peut être réalisée par celui qui s'abandonne à Dieu. Il nous donne donc un modèle de la vie humaine comme ascension vers le sommet de la perfection. Et donc, Saint Grégoire le Grand raconte également dans ce livre des dialogues de nombreux miracles accomplis par le saint, et ici aussi, il ne veut pas raconter simplement quelque chose d'étrange, mais démontrer comment Dieu, en admonestant, en aidant, et aussi en intervenant pour corriger les personnes, eh bien, intervient dans les situations concrètes de la vie de l'homme. Et il veut démontrer que Dieu n'est pas une hypothèse lointaine à l'origine du monde, mais qu'il est présent dans la vie de l'homme et de tout homme. Cette perspective du biographe, entre guillemets, s'explique également à la lumière du contexte général de son époque. Et ça me semble important puisque notre époque d'aujourd'hui n'a rien à envier à celle du 5e et 6e siècle, comme celle du 5e et 6e siècle n'a rien à envier à celle d'aujourd'hui. En effet, entre le 5e et le 6e siècle, le monde était bouleversé par une terrible crise des valeurs, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui, et des institutions causées par la chute de l'Empire romain et par l'invasion des nouveaux peuples et par la décadence des mœurs. On dirait que ça s'adresse à aujourd'hui. En présentant Saint Benoît comme un astre lumineux, comme le dit Saint Grégoire, celui-ci voulait indiquer dans cette situation terrible du monde de l'époque, précisément dans cette ville de Rome, l'issue de la nuit obscure de l'histoire, comme le commentait Saint Jean-Paul II. De fait, l'œuvre du saint, et en particulier sa règle, se révélèrent détentrices d'un authentique et véritable présent à vivre. La naissance de Saint Benoît se situe autour de l'an 480. Là, je passe rapidement. Comme le dit toujours Saint Grégoire, il est né dans la province et la région de Nursie. Ses parents, qui étaient aisés, l'envoyèrent suivre des études à Rome pour sa formation. Il ne s'arrêta cependant pas longtemps dans la ville éternelle, et là aussi c'est très actuel. Comme explication pleinement crédible, Grégoire mentionne le fait que le jeune Benoît était écœuré par le style de vie d'un grand nombre de ses compagnons d'études qui vivaient d'une manière dissolue, là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et qui ne voulait pas tomber dans les mêmes erreurs. Il voulait ne plaire qu'à Dieu seul. Soli Deo placere desiderans. Ouais. À l'obéissance du disciple doit correspondre la sagesse de l'abbé. Je m'arrête quelques instants sur la règle de Saint-Benoît. Oui, cette sagesse de l'abbé, si importante, qui dans le monastère remplit les fonctions du Christ, sa figure définie en particulier dans le deuxième chapitre de la règle, avec ses qualités de beauté spirituelle et d'engagement exigeant, peut être considérée comme un autoportrait de Saint Benoît, car, comme l'écrit toujours Grégoire le Grand, le saint ne put en aucune manière enseigner différemment de la façon dont il vécut. Fin de citation. L'abbé doit être à la fois un père tendre et également un maître sévère, un véritable éducateur, à mon avis ce dont on aurait grandement besoin aujourd'hui. Inflexible contre les vices, il est cependant appelé à imiter en particulier la tendresse du bon pasteur, à aider plutôt qu'à dominer, à accentuer davantage à travers les faits qu'à travers les paroles tout ce qui est bon et saint, et à illustrer les commandements divins par son exemple. Pour être en mesure de décider de manière responsable, eh bien l'abbé doit aussi être une personne qui écoute le conseil de ses frères, car souvent Dieu révèle aux plus jeunes la solution la meilleure. Cette disposition rend étonnamment moderne cette règle de Saint Benoît, écrite il y a presque 15 siècles. Un homme de responsabilité publique, même à une petite échelle, doit toujours être également un homme qui sait écouter et qui sait apprendre de ce qu'il écoute. Benoît qualifie la règle de règle minimale tracée uniquement pour le début. En réalité, celle-ci offre cependant des indications utiles non seulement aux moines, mais à chacun et chacune d'entre nous qui cherchons peut-être un guide sur le chemin vers Dieu. En raison de sa mesure, de son humanité et de son sobre discernement entre ce qui est essentiel et secondaire dans la vie spirituelle, cette règle a pu conserver sa force illuminatrice jusqu'à aujourd'hui. Le saint pape Paul VI, en proclamant Saint Benoît patron de l'Europe le 24 octobre 1964, voulut reconnaître l'œuvre merveilleuse accomplie par le saint à travers la règle pour la formation de la civilisation et de la culture européenne. Aujourd'hui, l'Europe, à peine sorti d'un siècle profondément blessé par deux guerres mondiales et après l'effondrement des grandes idéologies qui se sont révélées de tragiques utopies, est à la recherche de sa propre identité. Pour créer une unité nouvelle et durable, les instruments politiques, économiques et juridiques sont assurément importants, mais il faut également susciter un renouveau éthique et spirituel qui puise aux racines chrétiennes du continent, autrement on ne peut pas reconstruire l'Europe. Sans cette sève vitale, l'homme reste exposé au danger de succomber à l'antique tentation de vouloir se racheter tout seul. Une utopie qui, de différentes manières, a causé dans l'Europe du XXe siècle, comme l'a remarqué le saint pape Jean-Paul II, un recul sans précédent dans l'histoire tourmentée de l'humanité. En recherchant le vrai progrès, nous écoutons encore aujourd'hui la règle de saint Benoît comme une lumière pour notre chemin. Je vous encourage vivement à la lire, on la trouve dans un format de petit fascicule et elle est très facile à lire. Encore faut-il la méditer. Ce très grand moine demeure un véritable maître, frères et sœurs, à l'école de qui nous pouvons apprendre l'art de vivre, le véritable humanisme. Amen.